Quelle tentative collective vers un nouveau pacte social et quels risques ça présente et quelles opportunités? En conclusion, je pense que l'enjeu principal, c'est la question suivante. Le monde libéral saura-t-il proposer aux nouvelles générations un modèle qui leur soit adapté? Introduction, la grande démission est un phénomène plutôt occidental, parti des USA dès la fin de 2019, officiellement mi-2020, mais en fait ça a démarré avant. C'est un phénomène aux causes complexes, tantôt durable, on verra le rôle de l'arrivée des nouvelles générations au travail, tantôt conjoncturel, on verra notamment le rôle du Covid. C'est un problème aux enjeux lourds et incertains. Si de nombreuses entreprises sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre, il reste difficile de prévoir comment la situation évoluera. Ce phénomène étant récent, les analyses très diverses, voire contradictoires, les remèdes encore exploratoires et leurs effets non prouvés, il reste aventureux de se risquer à la recherche de la grande démission. Pour autant, son ampleur et sa dissémination rapide invitent à s'interroger à partir de la rencontre des jeunes générations et de leur motivation et à pressentir en quoi les rapports de force au sein de la société peuvent s'en trouver affectés. Quel est le contexte? En termes politiques, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde a connu une longue période de stabilité globale bipolaire USA-URSS. À la fin des années 80, cet équilibre relatif s'est rompu. L'écroulement de l'URSS et de l'utopie communiste a laissé place à un capitalisme triomphant, voire débridé. Depuis 2008, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, multipolaire, marquée par la succession rapide de crises, un monde plus dangereux et plus incertain. En termes économiques, de 1945 à 1973, les Trente Glorieuses ont été marquées par les investissements, une croissance matérielle très vive, des salaires en hausse rapide et une forte inflation. À partir de 1979-80, la révolution libérale, initiée par Thatcher et Reagan, ouvre une période de stagflation, de hausse rapide des rentes et des inégalités. Parallèlement, la révolution numérique, Internet, réseaux sociaux, s'est imposée, puis la conscience écologique a lentement émergé, imposant dans les esprits l'entrée dans un monde fini. En termes démographiques, les générations successives sont fort différentes. Nées avant 1946, les builders construisent leur résidence principale. Nées entre 46 et 64, les baby-boomers rêvent de voitures et de déplacements. Née entre 1965 et 1979, la génération X, marquée par la perte de stabilité, choc pétrolier, menace sur l'emploi, chute du mur, sida, etc., met sa priorité dans le travail. Née entre 80 et 95, les Y ont grandi avec Internet et les écrans, communiquent aisément et développent un intérêt pour l'écologie. Née entre 95 et 2009, les Z ou C, et 4C, communication, collaboration, connexion et créativité, recherchent le bien-être, y compris dans leur vie professionnelle. Je ne vous parlerai pas des Alpha, nés depuis 2010. En fait, ma curiosité sur le sujet est partie de là. Je me suis dit que ça serait une excellente opportunité pour moi de mieux cerner l'évolution et les attentes des nouvelles générations, puisque j'ai une grande famille, avec une demi-douzaine d'enfants, bientôt une douzaine de petits-enfants. Et il y a tout le spectre de toutes ces générations. J'ai d'ailleurs fait une typologie pour voir, pour confronter si ce que je racontais était un peu en phase avec ce que je constatais dans mon environnement plus proche, y compris la famille un peu plus lointaine. Après avoir terminé, j'ai envoyé mon travail à mes enfants et j'ai enrichi mon texte de quelques-unes de leurs réactions marquantes, mais les impressions sont en général partagées. Historique et symptômes. Naissance aux USA. Le terme de Big Quit, anticipé dès 2019 par l'universitaire américain Anthony Klotz, désigne un ample phénomène de démission professionnelle qui a débuté aux USA. Qui a accéléré en juillet 2020 et encore accentué début 2021. Klotz anticipait qu'une fuite massive du marché du travail serait une suite logique des dérives du modèle capitaliste moderne, lequel fait de la soumission des salariés aux intérêts de la finance sa pierre angulaire. La pandémie aurait accentué la prise de conscience que la hiérarchie des rémunérations et des gains était sans aucun lien avec l'importance des fonctions exercées dans l'économie. Les métiers essentiels ont continué à travailler pendant la crise, alors même qu'ils sont mal reconnus et mal payés. Mi-2020, la perception du phénomène a évolué. On a d'abord pensé que les gens retourneraient au travail une fois vaccinés, puis qu'ils attendaient que leurs enfants soient accueillis à l'école ou en garde. Enfin, on aperçut que beaucoup de gens voulaient faire de leur vie autre chose qu'avant l'épidémie. Ce phénomène se traduit par des démissions. Le taux mensuel US, stable à 2,1%, s'est porté à 2,3% en 2018-19, puis s'est effondré à 1,6% en mars-avril et est remonté à 2,4% au second semestre 2020 et s'est enfin accéléré de façon inédite pour atteindre 3% en octobre 21, soit plus 50%. Qu'est-ce qui se passe en Asie et en Europe? Ailleurs dans le monde, les chiffres sont moins impressionnants, on démissionne moins facilement qu'aux USA, mais une tendance de fond semble se dessiner. En Chine, certains jeunes Chinois préfèrent se retirer de la course effrénée à la réussite et veulent désormais rester allongé, c'est le tangping en chinois, en rejetant la consommation et le travail comme valeur pivot pour mieux profiter de la vie et de soi. Je ne suis pas allé voir. D'ailleurs, c'est difficile d'avoir des informations de ce qui se passe là-bas. En Europe, les mesures prises pour la relance suite à la pandémie ont été liées à un contrat de travail, ce qui a freiné les départs, contrairement aux USA où elles ont surtout pris la forme de chèques. En Europe, ce sont les Allemands qui démissionnent le plus, 6% par an, suivis par les Anglais, 4,7%, les Hollandais, 3%, les Français, 2,3%, sont en queue de peloton. Et en France, on observe au second semestre une brutale augmentation quand même tant des démissions en CDI, plus 20%, que des ruptures anticipées en CDD, plus 25%. Cette hausse est plus modérée, environ 10% dans les très petites entreprises. En 2021, la DARES, service statistique du ministère du Travail, a enregistré 1,6 million de démissions en CDI, ce qui confirme un rythme maintenu de départ élevé, mais en deçà de records. Ce phénomène était particulièrement marqué chez les jeunes, moins de 35 et surtout moins de 25 ans, chez les salariés, placés auparavant en activité partielle. Si, dans les récents sondages, les Français arrivent en tête pour la valeur travail, ils se placent tout en bas pour ce qui est de l'épanouissement au travail, ce qui est à la fois contradictoire et surtout préoccupant. Les secteurs les plus touchés sont l'hôtellerie-restauration, l'industrie, le BTP, la santé et le grand âge, le transport-manutention, le commerce de détail, l'accueil, le tourisme, voire l'agriculture. Bref, les travailleurs de première ligne, surtout les femmes, mais ça fait quand même du monde. En France, il serait plus juste de parler de grande rotation, car si les pénuries de main-d'œuvre dans la santé, l'hôtellerie-restauration défraient régulièrement la chronique, la baisse du chômage fait que les effectifs du privé et le taux d'emploi sont à la hausse. C'est pour ça qu'avoir une lecture côté français est un peu moins simple qu'aux USA. Ça se traduit d'ailleurs dans les commentaires de ma fille qui vit aux USA. et ceux qui vivent en Europe. Quelles sont les manifestations? Alors, d'abord, quel sens pour la vie? La crise sanitaire, en imposant confinement, télétravail et fermeture de nombreux points de loisirs, a permis à de nombreuses familles de se retrouver. La généralisation de longues périodes de télétravail, évitant les trajets, a permis aux travailleurs de gagner du temps, un temps précieux qu'ils entendent conserver. Le chômage partiel, obligé pour nombre d'entre eux, les a amenés à reconsidérer la durabilité et le confort de leur emploi. Le malaise au travail. Beaucoup des travailleurs de première ligne, confrontés au stress, aux risques, aux conditions de travail et aux incertitudes d'emploi, ont ressenti plus durement leur mal-être jusqu'alors latent, d'autant qu'ils étaient exclus du télétravail. Les points qui ressortent le plus souvent comme problématiques sont les horaires longs ou compliqués, coupés, nuits, week-ends, les temps de trajet, l'exposition aux risques, Covid et autres, les salaires trop bas, on a pu goûter à des emplois moins pénibles mais payés à l'occasion du Covid, le manque de considération et de reconnaissance, le télétravail peut accentuer, qu'il soit mal vécu, réalisé dans des conditions difficiles ou à l'inverse, recherché comme porteur de liberté, voire de bien-être. Vers un meilleur équilibre. Ces ressentis négatifs se heurtent à des aspirations profondes autant que multiples. Donner plus de sens à sa vie, professionnelle comme privée. Développer le temps consacré à la vie privée, personnelle et familiale, aux loisirs. Partir à la campagne, avoir plus d'espace au contact de la nature. Changer d'activité, se reconvertir, reprendre des études. Créer son entreprise. Démissionner est alors pour beaucoup une manière de marquer le coup, parfois même sans encore avoir le point de chute, voire avant de savoir l'orientation que prendra la vie d'après. 8 grandes familles de démissionnaires sont identifiables avec leur motivation centrale. Alors, les vertueux pour exercer le même job, mais plus en phase avec leurs valeurs. Les changeurs pour se reconvertir. Les maîtres du temps pour travailler moins et mieux, les détravailleurs pour ne plus travailler du tout, comme les Chinois qu'on évoquait, mais aussi comme Bartleby, le héros de Melville, là, le scribe, les entrepreneurs green pour monter une boîte équitable, les basses contraintes pour un job avec moins de contraintes, les boomerangs pour mieux revenir dans leur ancienne boîte, et les mercenaires pour gagner plus sans attendre. Pour autant, tous ne vont pas jusqu'à démissionner, ils vont réévaluer la place qu'ils accordent à leur travail, abandonner l'idée de tout donner pour lui, lever le pied, répondre à la description de leur poste sans aller au-delà des attentes ni prendre plus de responsabilités, même en cas de réduction d'effectifs. C'est une démission silencieuse, le quiet quitting des anglo-saxons. En fait, c'est une vieille ancienne qui reprend de la vigueur à la faveur d'un contexte favorable. Ça a toujours existé. Cause et analyse. Alors, du côté des employés, les malaises évoqués ci-dessus ont des causes multiples, liées tant au contexte professionnel qu'à la personne et à son environnement privé. On peut citer le climat en entreprise et ou en équipe. Le manque ou la perte d'intérêt ou de motivation par rapport à la mission. Les conditions de travail, horaires, ergonomie, charge de travail. Le stress, surmenage, voire burn-out, harcèlement. Les trajets quotidiens estimés trop longs. Pas oublier qu'en région parisienne, il est courant que les gens mettent aussi longtemps que nous pour arriver en réunion à Paris. Le salaire trop bas, que ne compensent pas les primes éventuelles, manque de considération et d'épanouissement au travail, une évolution perçue comme fermée, parcours de carrière mal perçu, désir de se lancer à son compte. La crise sanitaire de 2020 est venue ajouter des éléments, comme risque d'exposition au Covid, d'autant plus mal vécu qu'il était obligé, risque de perte d'emploi temporaire sans horizon, voire définitive, découverte d'arbitrage nouveau entre vie professionnelle et privée. Enfin, le télétravail subi a été très diversement ressenti, suivant les modalités d'introduction, pédagogie, souplesse, organisation, selon les conditions dans lesquelles il s'exerçait, logement, famille, poste, à Paris, ma fille et mon gendre qui ont une belle situation, ils étaient très contents de se rapatrier chez nous parce que les conditions pour faire du télétravail dans un appartement parisien, c'est de toute façon pour la très grande majorité des gens extrêmement difficile. D'autant plus que dans la période même se supposaient des problèmes de garde et donc c'était très difficile. Même pour les gens comme ma fille la plus jeune, qui, elle, est très adaptable en télétravail, les conditions étaient difficiles. Du côté des employeurs, la plupart des entreprises ont abordé cette période avec des handicaps plus ou moins lourds selon les secteurs et les dirigeants. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, les salaires étaient bas pour des emplois à contraintes lourdes, notamment les horaires coupés, tardifs et de week-end. Donc, quand ils ont été écartés du travail pour raison de Covid et qu'ils ont par nécessité goûté autre chose, ils ont découvert un autre monde et beaucoup y sont restés. Dans le monde de la santé, les problèmes structurels non résolus, réformes hospitalières, soins à domicile, pénurie de soignants pesaient. Ma femme était infirmière, autour d'elle, c'était vraiment... Beaucoup de gens, y compris des très jeunes, ont quitté et ne reviendront pas. La gestion des ressources humaines depuis 30 ans était souvent plus technocratique, réduction d'effectifs et plans sociaux, qu'humaine. Or, elles ont affronté cette situation de crise en étant confrontées à des difficultés multiples et sévères, financières, organisationnelles, logistiques, qui ont mobilisé toutes les ressources restées disponibles, dans de telles conditions, on peut comprendre que l'attention portée aux employés n'ait pas toujours été prioritaire. Enfin, du côté des institutions, en Europe, la réaction des autorités n'a pas toujours été très rapide, mais elle a été globalement pertinente, organisant une relance d'ampleur inédite axée sur le soutien à l'emploi, quand les USA optaient pour le soutien à la consommation, l'échec. Ainsi, en France, entre parenthèses, ça pose une question par rapport à ce que nous, aujourd'hui, on est en train de faire, qui justement soutient la consommation d'une manière hautement discutable. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une réaction du Fonds monétaire international sur le sujet. Ainsi, en France, le quoi qu'il en coûte a permis de limiter les défaillances parmi les entreprises, donc les pertes d'emplois. Mais le chômage partiel a pu favoriser chez certains la prise de recul et la réflexion sur les conditions d'emploi. Face à la grande démission, il ne semble pas y avoir actuellement de prise en compte organisée par les autorités françaises, qu'il s'agisse d'enquêtes, de rapports, de mesures spécifiques. Il est vrai qu'elles ont bien d'autres préoccupations. Alors le traitement de cette affaire. Du côté individuel, donc, comme je disais, la démission entre fuite et aventure. Quand le lien avec l'emploi se relâche, quand le salarié a du temps pour penser, tous les ressentis remontent, les scénarios se bousculent et les décisions se précipitent sans toujours ressortir de la logique. Cette vie-là n'est pas faite pour moi. Ainsi se formule souvent le point de départ. Dès lors s'installe où se développe la désaffection du travail, voire l'idée même de produire des efforts. Beaucoup de jeunes ne se satisfont plus de perdre sa vie à la gagner, mais attendent que l'activité professionnelle porte du sens et permette une vie privée épanouie. À partir de là, selon les ressentis et les priorités, certains sont enclins à tout quitter, quand d'autres démissionnent sans même avoir d'alternative, quittent leur lieu de vie, urbain, voire leur entourage, c'est la fuite. D'autres enfin, tentés par l'aventure, s'engagent dans un challenge qui les motive, plein d'enthousiasme, ils donnent sans compter, mais attendent sans délai, support, coaching, formation et reconnaissance appuyée, considération et rémunération. Et ça prend des proportions. Ma fille, la plus jeune, là, qui, il y a 3 mois, se félicitait d'avoir eu 15% d'augmentation, quand elle a été confrontée à un taux de départ dépassant les 50% sur l'année, eh bien, ils ont dû pratiquer en catastrophe une rafale d'augmentation pour tout le monde de 15%. Ça prend des proportions dans certains secteurs qu'on n'a pas connus depuis longtemps. Tentative collective vers un nouveau pacte social. Les entreprises sont très souvent impactées par ce phénomène, mais de façon très variable suivant le secteur d'activité, leur situation financière et leur pratique managériale, ainsi que leur agilité face à cette crise d'un type nouveau s'ajoutant aux autres. Les jeunes ne veulent plus travailler. Ce cri du cœur, souvent entendu, marque le désarroi profond d'employeurs qui se sentent démunis face à la démission, à la difficulté de recruter, à la nécessité de remettre en cause leurs pratiques, conditions de travail, horaires et salaires, alors que leur entreprise n'est pas toujours vaillante. Certains sont tentés de renoncer ou s'engagent sur des voies de repli telles que fermeture partielle, soirée, week-end, renoncement à tel service, ou fuite en avant avec ceux qui restent, surcharge, stress, toujours moins nombreux. Beaucoup d'entrepreneurs, cependant, comprennent la nécessité de s'adapter et partent à la recherche d'un gagnant-gagnant et engagent, selon le cas, le recours aux remèdes classiques face aux symptômes, relèvement des salaires, allègement des contraintes les plus lourdes, ou vers le renouvellement, vers renouveler le process d'intégration du nouvel employé à partir de sa perspective, ou en amont, ils engagent l'analyse des causes qui passe par l'ouverture d'un dialogue avec les intéressés, cerner leurs ressentis et leurs attentes spécifiques et engager une démarche les associant aux règles d'organisation du travail vers plus d'autonomie. Risques et opportunités. Le renversement inédit du rapport de force en faveur des salariés constitue un risque à long terme pour la participation au marché du travail si le désintérêt se développe en affectant le taux d'emploi des nouvelles générations X et Y. Certains domaines d'activité, restauration, transport, santé, services à la personne, bâtiments, sans doute d'autres, sont déjà en crise marquée d'attractivité, d'effectifs et de recrutement, d'autant plus critique que leur équilibre économique est précaire. Énergie, inflation, je veux dire, on n'est plus dans le Covid, mais les crises se succèdent à une vitesse absolument impressionnante qui, chaque fois, rend pour les entreprises les challenges un peu plus difficiles à relever. Pour autant, on peut espérer que, sur la base d'un dialogue social renoué, cette période difficile ouvre des rapports sociaux plus équilibrés, le défi étant de repenser les modes managériaux en donnant plus de temps et d'autonomie aux employés. Enfin, on observe un développement inédit en France de l'initiative individuelle dans des activités innovantes. Cela peut déboucher sur des formes d'activités nouvelles, créatrices de valeur, tant économique que social et écologique, et de développement personnel. En conclusion, plusieurs facteurs se sont conjugués pour donner naissance à ce qu'il est convenu de désigner comme grande démission. On peut notamment citer l'arrivée sur le marché de l'emploi de nouvelles générations aux attentes nouvelles, des tensions sur ce marché, plein emploi, pénurie de main-d'œuvre, sans parler des nouvelles, la crise Covid-19 qui a joué un rôle d'amplificateur et la culture ressources humaines des entreprises peu adaptée à ce contexte. Le monde libéral saura-t-il proposer aux nouvelles générations un modèle adapté ? Répondre à cette question est d'autant moins évident que ce monde se trouve actuellement confronté à de nombreux et redoutables défis tels que la crise écologique et ses impacts notamment énergétiques, la montée des périls géopolitiques et des risques logistiques associés, les tensions sociopolitiques et l'affaiblissement démocratique. Très rapidement, le marché du travail pourrait se retourner et l'emploi s'effondrer, donc le rapport de force redevenir plus favorable aux employeurs. Pour autant, un simple retour à des pratiques managériales de type imposé paraît improbable et même peu souhaitable pour les entrepreneurs face à leurs jeunes employés. Ce serait en effet au prix de leur dynamisme dont ils auront tant besoin dans le gros temps qui s'annonce.
Eh ben, merci, c'est une bonne synthèse. Hein. On va. Il nous a mâché le boulot là parce que donc en mettant une liste de questions, ça lance un petit peu les pistes de discussion. Voilà.
Ben, la première, c'est on voit bien le contexte a changé très très vite, donc on peut s'interroger est-ce que ce phénomène est durable?
Alors je peux faire une contribution. Moi j'ai un poste d'observation indirect, c'est ma fille aînée qui est enseignante, donc en collège. Donc elle a 52 ans, elle a déjà 25 ans de pratique. Et le truc est, enfin, elle est considérée comme une bonne prof, tant que je puisse l'apprécier. Et ses élèves l'apprécient, mais elle fait de l'histoire géo. Hein. C'est unanime, toutes classes confondues, les gosses ne font plus rien. Ils sont intéressés à écouter et à participer, mais dans le travail, donc des gens qui ont des gamins qui ont 12, 13, 14, 15 ans, ne font rien. Pas du tout, parce qu'ils ne font rien. J'ai autre chose à faire. C'est pas du tout ne rien faire et glander. C'est j'ai autre chose à faire qui est plus important pour moi que le travail scolaire. Donc, on essaie tout et le constat a l'air d'être unanime. Donc, l'histoire durable, à mon avis, oui, hélas, parce que c'est ce qu'on observe au niveau de la population scolaire. Alors, je sais pas ce que. D'aujourd'hui, hein, j'entends.
La concurrence telle en dehors de l'enseignement qu'on peut le constater, effectivement. Hein. Enfin, c'est ce que j'entends partout aussi.
Oui, mais nous, si vous voulez, on a plus...
Les gamins préfèrent être sur les réseaux, comme
vous avez vu, je suis allé me faire tondre les trois cheveux qui me restent, là. Et donc, sans évoquer absolument le sujet, dans la 30 secondes après le début de l'opération... Les gosses font plus rien. J'ai pas pris d'apprenti parce que j'en trouve pas. Pourquoi j'en trouve pas? Ben elles veulent pas être coiffeuses. Hein. Je veux pas être debout, c'est fatigant. Je veux pas travailler le week-end. Toute la liste. Donc c'est ce qu'on entend.
Vous savez que les technologies ne font rien pour susciter le goût de l'effort, quoi. Je veux dire, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ils ne restent pas attentifs non plus très longtemps sur la même chose, ils zappent sans arrêt. Donc un cours, ça vient... Bon, d'ailleurs, il n'y a pas de c'est pareil, il y a des problèmes de recrutement pour être enseignant.
Oui,
tout ce qu'on a dit sur l'emploi, c'est pareil.
Hein.
On n'a pas suffisamment de gens pour passer les concours.
Il y a un film récent dont j'ai déjà oublié le nom qui évoque l'école et un truc sur l'école qui est sorti il y a quelques semaines là. Alors, j'ai déjà oublié. Donc de mon sens c'est très bien fait parce que c'est crédible au niveau du comportement et il y a une grève de profs et puis il y a une prof qui vient là, une intérimaire, on apprend au cours de l'histoire que c'est une fille qui a fait normal sup et qui faisait des classes prépa, mais on la colle dans un collège parce qu'elle a fait une déprime. Et donc, oui, je finis. Et les gamins, bon, c'est tout, il y a tout le panel des gamins qui sont dissipés. Elle arrive à créer, disons, un comportement tel que pendant la grève, il y a des activités autonomes qui se fassent et bon, la pompe s'amorce. Une fois que c'est fini, évidemment, le système se referme sur lui-même et elle est jetée comme un corps étranger du système. Voilà. Mais au niveau du comportement des gamins, je trouve que, enfin, ça me paraît, autant que je puisse le savoir, assez réaliste et crédible.
Alors, ce que vous venez de dire est certainement juste. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai une dizaine de petits-enfants qui sont d'âge variable jusqu'à 28 ans. Tout le monde bosse, hein. Mais probablement, je me dis, c'est probablement une famille un peu atypique.
Bon,
oui, il y a des gens qui bossent. Oui, mais si vous voulez, moi j'ai le même.
Ma mère nous a imposé un modèle absolument effrayant. On pouvait être ingénieur ou médecin, et si on ne savait pas faire, on était dans l'enseignement. Bon, point final. Conclusion, à peu près tout le monde a fait des longues études. Moi, j'ai eu 5 et 2 enfants, 7 enfants. Je leur ai simplement dit que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient avoir un financement sur 5 ans après le bac. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pratique? C'est que, et je leur demandais aucun compte, contrairement à ma mère, sauf que, je leur demandais, quand ils avaient moins de 14 sur 20 dans une matière quelconque, de m'expliquer pourquoi, c'est tout. Conclusion, les gamins se sont toujours débrouillés pour en avoir le moins souvent possible. Ils ont tous fait, en moyenne, bac plus 5 ou 6. Pourtant, ils ne sont pas plus intelligents que la moyenne. D'ailleurs, en prime, parmi mes frères et sœurs, celle qui a fait gynécologue était une enfant. Moi, je me rappelle très bien. J'avais 7 ans, je faisais les dictées pivots en même temps qu'elle. Je faisais une demi-douzaine de fautes, elle en faisait 40. Le système à la maison, c'était effrayant, hein, je peux vous le dire. Hein. Bon. Ça veut dire que la faillite que vous êtes en train de décrire, c'est une faillite de l'éducation.
Oui.
Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas l'éducation nationale la première cause, c'est les parents.
Alors, c'est l'éducation.
L'éducation donnée par les parents. Par contre, ce qu'on peut dire, moi je suis surpris de voir aujourd'hui, alors, un enseignant tous, il est absent. Débrouillez-vous avec les gamins, ils ne sont même plus pris à l'école. Et les systèmes de garde, à tous les niveaux, c'est exactement pareil. Nous, en tant que parents, on a pour le moment que 2 petits-enfants. Mais alors, je peux vous dire, notre planning, il est effrayant. Alors que je me rappelle, en tant que parent, tout ça, on ne connaissait pas. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de décrire ne touche pas les 12-14 ans, mais touche certainement des gens qui sont déjà au travail et pas depuis 8 jours. Donc c'est un malaise beaucoup plus profond dans la société. C'est pour ça que je pense, comme vous avez pu voir, moi personnellement je pense que c'est durable, et j'espère que les gens réaliseront que c'est durable, même si la situation économique évolue, parce qu'on a un problème sociétal de très grande ampleur.
Touche quand même pas loin de là toute la population.
Non.
Loin de là. on est quand même on est dans une frange, hein. On est quand même dans les peut-être 10-20% de la population, c'est tout. Hein.
Dans ce que vous dites, moi je pense que c'est plus profond que ça. Je pense qu'on a encore une partie de gens qui ont le sens des responsabilités, etc. Mais je pense que le malaise, il touche de façon très diverse facilement la moitié de la population.
Moi, je voudrais dire un truc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas une grande... Enfin, il y a une tendance, mais dans cette tendance... Moi, je suis dentiste. Je vois à peu près ce qui se passe chez les médecins, les dentistes, etc. La tendance des générations qui arrivent, c'est la semaine de 3 jours et demi, 4 jours. Alors, ils ont quand même fait des efforts, parce que le concours est toujours difficile. Le concours de première année, il faut y aller. Hein. Si vous n'avez pas maintenant... mention très bien au bac, c'est même pas la peine d'aller passer le concours. Bien à la rigueur, on est point barre. Donc il faut quand même travailler au lycée pour arriver à être médecin ou dentiste. Mais à la sortie, c'est 3 jours et demi, 4 jours. On peut parler de la pénurie de médecins ou dentistes, et c'est une des explications.
Oui, bien sûr.
C'est qu'à partir du jeudi, tout est fermé.
Ils arrêtent à
5 heures. Mais c'est une évolution à laquelle j'ai participé. Quand ma génération, quand on est arrivé... Nous, on n'allait pas au-delà de 8 heures du soir, ce qui était déjà pas mal. Mais les gens qui étaient avant moi, il y en avait à Chalon qui travaillaient jusqu'à 9, 10 heures du soir, du lundi au samedi.
Et les médecins aussi.
Les médecins faisaient 60, 70 heures. Mmh. Aujourd'hui, ils font 50 heures, c'est un maximum.
Oui,
mais ils font... ils font 50 heures. Et les jeunes qui arrivent veulent faire 35 heures. Il y a une tendance à diminuer le temps de travail. Et là, je ne parle pas de gens qui ont démissionné, qui n'ont pas travaillé. Mais si ça se trouve, c'est pareil chez les ingénieurs, chez tout le monde. La tendance, c'est d'avoir une vie privée. Alors,
il faut qu'il y ait un
Je vais dire un truc qui va faire hurler.
C'est pas indépendant du reste.
Je vais faire hurler les femmes, parce que une des causes. C'est les femmes qui ont foutu la pagaille là-dedans. Non, mais je vais vous dire pourquoi elles ont foutu la pagaille.
Parce qu'elles n'ont pas les mêmes rapports au
travail. Non, c'est pas ça. C'est jusqu'encore à ma génération, les femmes ne travaillaient pas. Donc, le mâle était obligé de travailler pour ça. Maintenant, les médecins sont obligés. Les médecins, les dentistes, les femmes. Il y a deux salaires. Donc ils arrivent, ils ont plus d'argent que nous en travaillant, enfin différemment.
Ce que j'allais dire tout à l'heure par rapport à l'éducation, c'est que maintenant vous avez beaucoup de familles où les deux travaillent.
Voilà. Hein,
et
c'est difficile.
Ils travaillent beaucoup aussi, hein, certains.
Ils peuvent travailler moins pour avoir des
voilà, moyens. Voilà. Par contre, s'ils ont envie de, comme les hommes maintenant, ont envie aussi de s'occuper de leurs enfants, d'aller les chercher à l'école, d'aller faire des choses avec eux, ils veulent du temps aussi pour
leur travail. Ça entretient.
On voit comment la société évolue. Hein. Et puis on est dans une société de loisirs aussi. On n'est pas dans une société de.
Oui, mais ils peuvent le faire différemment.
Non, mais le monde sera différent, c'est certain.
Il y a une évolution. Alors après, qu'il y en ait qui foutent rien au collège, etc., c'est sûr. Mais ça donne pas grand-chose au bout. Hein. C'est pas comme ça que vous allez rentrer au Guézard ou à la médecine.
Mais ce qui se passe au collège,
ça n'a pas changé, ça.
Est-ce qu'il n'y a pas des réseaux sociaux encore?
Ça n'est que l'écume, ça en rajoute une couche.
Il y a une tendance. Moi, ce que je trouve, avant, les gens avaient des loisirs quand le travail leur permettait. Oui. Maintenant, ils ont un peu inversé. Ils travaillent quand leurs loisirs leur permettent.
Ah ben, c'est exactement la philosophie des RTT, moi, que j'ai vécu au début, en disant, maintenant, je gère mes RTT et je fais le travail en dehors des RTT.
Alors, j'ai une remarque à faire quand même en ce qui concerne la partie Covid et la mutation qu'il y a. Je suis encore trop quatre entreprises, des PME, hein, et dans différents domaines. Les employeurs qui ont géré intelligemment avec leurs salariés, ils ne sont pas partis. Ils sont restés là. Et ceux qui l'ont géré à l'ancienne, avec un esprit un peu
militaire, réforme, militaire.
Les gars sont partis, les gars des filles, je veux dire du mot, ça va, ils sont partis. Et ils n'en trouvent plus maintenant, ils se plaignent. Mais attends, ils n'avaient qu'à faire attention. Aussi, gérer aussi. Et là, effectivement, ceux qui recherchent du travail aujourd'hui, les jeunes, ils ont jeunes, moins jeunes, mais 35, 40 ans, 35 ans, ils ont la possibilité aujourd'hui de dire je veux plus travailler avec le patron comme avant. Et ça, c'est un élément essentiel, je veux dire, là, quand justement, il y a une. On en parle là, ici, vous en parlez, là, la psychologie, je veux dire, la façon, je veux dire, de gérer la gestion du personnel, n'est pas du tout pareil. Et ça, parce que même si on travaille moins longtemps, les outils nous permettent aujourd'hui de produire beaucoup plus qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on produit, si je ramène en tonnes d'acier ou en je ne sais pas quoi, ou en tonnes de papier, on est vachement plus efficace.
Et en France, vous avez raison tout à fait, en France, ce sera un petit peu plus difficile qu'ailleurs, parce que la distance sociale est plus grande.
Oui, voilà, aussi.
Oui, est-ce que les gens veulent une relation d'égalité? Comme au Canada.
Tout à fait.
Pour voir l'histoire de la France, hein, l'histoire des syndicats, l'histoire de la politique, 19e siècle,
oui, oui, mais vous avez pu voir qu'au début... Au début, je vous ai parlé du patron qui ne sait plus trop quoi faire. Avec son RH qui lui répond « Je lance mon activité de naturopathe, je vais vous aider à vous sentir mieux. » Mais à la fin... Tout le monde se retrouve ex aequo parce qu'on s'aperçoit que ce soit... là, j'ai quoi? J'ai un RH, un syndicaliste, un peu tout le monde, et puis ils n'ont rien sur le sujet.
Connais, 35, ça bosse quoi. Je ne suis pas du tout inquiet. Simplement, il y a une mutation à faire. Il y a une mutation à prendre. Et les gamins, vous savez, je me souviens, je reprends toujours l'image hein, où j'étais interne à la prof à Chalon-sur-Saône, à 18 ans, on n'avait pas le droit à la radio, on n'avait pas le droit au journal, on n'avait pas le droit à rien du tout. Et quand on voit maintenant ce qu'un môme de 18-20 ans, il a accès à la connaissance qu'il peut avoir, le raisonnement autour de lui, du monde, la connaissance du monde, et c'est fabuleux, quoi. Je veux dire. Donc c'est tous ces outils-là, ce modernisme, qui a évidemment des autres défauts, mais je crois que c'est cette évolution-là, je veux dire, elle n'est pas inquiétante, réellement, pour moi. Après, c'est une question, c'est peut-être une contrepartie aussi, la mondialisation à la con. Hein, qu'il faut aussi mettre en place. Non, on a voulu aussi profiter de tout ce qu'on pouvait tirer chez les uns, les autres, les petits, les moyens, les moins solides, les matériaux, enfin bref, tout ce qu'on peut dire. Et puis, peut-être en ce moment, peut-être on va se faire passer un peu les doigts. Quoi.
Pour répondre un peu, donner un élément de réponse aux questions que vous posez, ma fille la plus jeune, qui travaille à Paris dans une boîte de services informatiques, me dit qu'ils sont en train de déployer un plan pour un peu faire face aux difficultés qu'ils rencontrent, et encore dans un milieu où c'est plus facile hein, que ceux de première ligne que j'ai évoqué où c'est toujours plus difficile. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est d'abord ils vont recentrer, travailler avec leur personnel sur le sens de la mission du collaborateur au quotidien. Deuxièmement, ils vont développer la capacité de l'entreprise à projeter les collaborateurs sur des parcours de carrière à plus ou moins 3 ans, et troisièmement, comme je l'évoquais tout à l'heure, rémunération, alors l'augmentation médiane, 12%. Donc, deux fois plus que l'inflation.
Oui, mais c'est dans les métiers de l'informatique.
Oui, mais je veux dire, là où les salaires aujourd'hui, dans de nombreux secteurs en France, sont à environ 30% au-dessous de ce qu'ils devraient, vous mesurez le chemin qu'il y a à faire.
Oui.
Infirmière, avant les derniers plans, c'était moins 30%, c'est peut-être un peu moins maintenant. Enseignement, moins 30%, bon poids. Et quand vous prenez les trucs, les secteurs sont nombreux, moins 30%, alors que les entreprises commencent à se trouver, et les institutions, parce que c'est pareil pour l'État, hein, se trouvent dans des situations qui ne sont pas reluisantes, difficiles.
Bon.
Aux États-Unis notamment, j'avais lu un article qui disait qu'en fait la crise de 2008 avait eu un impact très très important sur le fait d'avoir vu, comme on l'a tous vu à la télé, les gens partir avec des entreprises, puis ça avait pareil en ce moment avec tous ceux
Twitter,
qui
sont sensibles, et compagnie.
Et disait que ça avait eu vraiment un impact et que les démissions avait commencé à augmenter à partir même de cette période de crise financière. Et là, les images qu'on a vues des gens qui partaient de leur entreprise avec leur ordinateur, avec leur... et c'était assez dur pour les autres. Quoi. Et là, en ce moment, avec tous les licenciements là, sur les grandes entreprises de communication, ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible aussi.
Non, mais aux États-Unis.
Sur les moteurs de l'emploi aux États-Unis, c'est pour ça que je mets un bémol à la fin
voilà.
Sur comment ça va bouger très vite, là. Hein.
Aux États-Unis, bon, virer les gens comme ça en un claquement de doigts, ça existe depuis toujours. Et donc, c'était relativement socialement accepté tant que ça
donc, on trouvait rapidement du travail aussi.
Oui, voilà.
En Angleterre, c'était pareil.
C'est le pendant du système. Ouais. C'est le pendant du système. Alors, nous, le clapet d'entrée, il est très dur, hein, parce que il y a les CV, on trie les CV, on passe par toute une moulinette. Il faut. Moi, c'est Véron qui me racontait. Véron, vous l'avez tous connu. Il s'est installé au Luxembourg, donc d'aucuns ont dit que c'était pour des raisons fiscales, sûrement aussi, un petit peu. Bon, passons. Non, mais je l'ai dit d'autant mieux que Véron, c'était un gars qui était plutôt de sensibilité de gauche et disons, qui était sensibilité service public à la française, quoi. Hein. Et il a dit, mais moi je quitte la France aussi parce qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Bon, c'est un peu macroscopique. Il s'est installé au Luxembourg, donc il trouve un appartement qui pouvait faire bureau en même temps pour ses activités. Et donc, il lui demande c'est combien ? Ben d'accord, je suis d'accord sur le loyer. Alors, il demande à son bailleur qu'est-ce que je vous donne comme justificatif ? Ah, le gars, il le regarde. Ben, il ne dit rien. Vous me payez, c'est
pas
tout.
En France, hein.
C'est au Luxembourg, hein.
Oui.
Rien. Ah bon, même lui, il a été déstabilisé. Il n'avait pas de feuille de paye, je sais pas quoi, de relevé, de garde. Non, non. Ah, par contre, si en 15 jours, il n'a pas payé, il est viré par la Guardia Civile, hein, et sans possibilité de recours. Hein, c'est les pays.
C'est pareil aux USA. Oui, oui,
oui.
Emmanuel avait vu ça aux
USA. Oui, oui. Donc, il y a une espèce d'équilibre entre la dureté et du marché du travail, comme ça. Mais le pendant, c'est. Alors, ça marche bien tant que. On est en situation de constante, quoi. C'est-à-dire il y a autant d'entrants que de sortants. Mais quand c'est la crise générale, ben, tout le monde se retrouve sur le sol avec que dalle. Je rappelle qu'en Angleterre, toujours j'ai encore lu un article ce matin, c'est 184 livres par semaine. Que vous soyez PDG, enfin, les, je ne sais même pas s'ils ont machin, mais enfin, que vous soyez cadre très supérieur ou vous soyez caissière dans un supermarché. Les indemnités de chômage sont fixes, quel que soit le salaire antérieur. Donc, c'est, voilà. Et Brexit ou pas Brexit, c'était comme ça. Eh ben, je peux vous dire qu'il y a 3,5% de chômage en Angleterre. Les gens crèvent la dalle parce qu'ils gagnent que dalle, hein, et les prix augmentent à la vitesse grand V, mais il n'y a pas de chômage, parce que tout de suite derrière, hop, il faut se rattraper aux branches. Nous, on a un système qui est complètement l'inverse, en disant qui est très protecteur vis-à-vis des gens qui perdent leur emploi. Donc, il n'y a pas. Donc, vous savez qu'il y a des. C'est d'ailleurs la discussion politique en ce moment, là. Il y a des gens qui ont c'est à la marge, hein, un système très affûté de calculer les périodes d'activité puis les périodes d'alloc, hein. Mais c'est minuté, quoi. C'est bien fait.
Ils sont en train d'en discuter, hein, des indemnités de chômage sont en train de
changer. Oui, ben, mais c'est en train de changer. Ça va être vraiment à la marge. Ça va pas être. Ça va pas être une révolution.
C'est pas tout à fait à la marge, parce que par exemple, la protection qui consiste à ramener, par exemple, de 12 mois à 9 mois, puisque le chômage est inférieur à 9%, c'est. Moi, je trouve que c'est un pas dans le bon sens. On peut le trouver limité, mais d'un autre côté, on ne peut pas changer un système trop brutalement. Il faut laisser un peu aux gens le temps d'évoluer dans leur mentalité. On sait tous que l'évolution des mentalités, c'est pas de la tarte, hein. Ça prend du temps.
Il y a une certaine époque, on parlait aussi du droit au chômage, en fait, déficit. Il y a quelques temps de ça.
Ce que je vous propose
derrière,
sur ce sujet-là, j'ai fait une tentative de résumer le bouquin de Dufourcq. Sous forme d'un PowerPoint que je vous l'ai déjà envoyé, je crois. Non, non. Vous ne l'avez pas encore envoyé, ça? De ce que je vais faire, ben, c'est sur le site, en tout cas. Si vous voulez le lire avant le 24, c'est sur le site.
Hein? Quel livre?
Ben, de Nicolas Dufourcq, la désindustrialisation de la
France.
Oui, mais juste. Il y a une relation directe avec la discussion qu'on vient d'avoir.
Mais par rapport à l'emploi, il y a quand même un paradoxe en France, parce qu'il y a aussi des gens qui aimeraient travailler, notamment des immigrés, mais qui n'ont pas les papiers.
Ah ben
or,
oui.
Dans les secteurs qui sont en manque d'emploi, oui. Notamment, que ce soit la restauration, que ce soit des services à la personne, il y a des gens qui ont même des diplômes pour travailler dans, mais n'ont pas leurs papiers, donc ils ne peuvent pas travailler. Alors il y a quand même là un paradoxe. Alors je ne sais pas le nouveau test que ça donnera pour les secteurs sous tension, comme on dit, parce qu'il y en a un certain nombre qui aimeraient bien travailler.
Vous avez raison, mais le paradoxe il est partout. Moi je peux vous dire, aux États-Unis par exemple, c'est consternant, parce que les grands leaders du Parti républicain, hein, en Floride, leur clientèle principale,
c'est les Latinos,
sont des gens qui, eux, embauchent à tour de bras des irréguliers pour ne pas les payer cher, et qui, le jour du vote, retournent leur veste. C'est, l'hypocrisie, elle est partout. Il ne faut pas imaginer que l'ensemble des emplois bas de gamme qu'on a à fournir va pouvoir être assumé par des immigrants illégaux, parce que vous voyez tout de suite ce que ça va donner. Hein. Je crois pas, c'est peut-être pas la peine de faire un dessin. le corps social dans son ensemble n'y est pas prêt. Il faut essayer de trouver des solutions. Moi, je me rappelle très bien à l'usine, un peu après que je sois arrivé, on a eu à embaucher énormément de gens pour des emplois d'OS. Donc, il y avait 400 postes de montage. On a eu un grand débat en direction. La tendance naturelle était de faire ce que faisaient à l'époque tous les industriels en France, c'est-à-dire de faire venir de la main-d'œuvre immigrée.
Vous avez même les chercher sur place.
Nous avons choisi, nous avons choisi d'avoir le moins possible recours à cette solution et de compenser en faisant le plus possible la place à l'emploi féminin. Eh bien, je peux vous dire que 15 ans plus tard, on s'est énormément félicité de ce choix. Il a été coûteux parce qu'on a été obligé de revaloriser les salaires davantage. Mais alors, je peux vous dire que l'efficacité n'était pas la même. Hein. Parce qu'on avait des gens très qualifiés et que, c'est bien connu, à salaire égal, une femme est largement compétitive et comme en plus, elle n'a malheureusement pas le même niveau de salaire, et y compris rentable.
Bon. Voilà, ben, vous chercherez. Le voilà, Nicolas Dufour. C'est le président de la BPI. Donc,
vous nous envoyez votre résumé.
Ben, il me semblait que je vous l'avais.
Oui.
Si, mais alors il faut lire vos mails, hein, les gars.
Parce que... Ah, je vais peut-être passer à travers celui-là.
Alors, si vous ne l'avez pas reçu, vous allez sur le site et...
Non, mais j'ai dû le recevoir, je l'ai regardé.
Comme vous étiez à l'AG, je l'ai déjà dit à l'AG, il faut regarder sur le site. Voilà. C'est embêtant parce que ce bouquin, si vous voulez, il fait 200 pages. Bon, je n'ai pas le truc en tête. Mais il est d'une richesse telle que c'est vachement difficile à résumer. Donc j'ai essayé. Et je n'aurai pas le temps... parce que je vais faire cet exposé, moi, le 24. J'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Ce que je vais simplement faire, c'est, à la fin, c'est plus à titre documentaire. J'ai essayé de faire des synthèses à la fin. Je ne trouve plus où j'ai mis ça.
Hein ? Au début, il fait la synthèse avant les exposés. La synthèse est au début du bouquin.
Oui, ça c'est américain, ça.
C'est un con.
Ben, non, parce que.
L'inverse.
Oui, mais c'est le chef. C'est le gars qui.
Et après, il met les interviews.
Les bouquins américains sont comme ça.
Mais c'est pas américain.
Voilà. J'ai fait tout à fait à la fin, là, 29, 29 et 30 et 31. C'est le résumé de tous les entretiens, si vous voulez. Voilà. Non, mais en fait, ça aborde. Il y a du recoupement. S'il y a des problèmes de motivation des gens pour les faire bosser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les entreprises. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'intérêt du bouquin, moi, c'est le premier bouquin que je lis comme ça, mais bon, j'anticipe, c'est que c'est groupé par famille de commentateurs, les chefs d'entreprise, grandes entreprises, petites entreprises, des économistes, des fonctionnaires par agent économique. Et la vision des gens, tout le monde a une poutre dans l'œil, en clair, hein, à des degrés divers. C'est-à-dire, c'est le même sujet, mais vous écoutez M. Trichet, il est interviewé, il dit « moi, j'ai pas fait de bêtises avec l'euro ». Et après, circuler, il n'y a rien à voir. L'entreprise, c'est pas...
Voilà. Hein ? Je vais faire la réunion de jeudi.
Non ?
Moi, je l'ai lu rapidement.
On en est toujours sur la grande émission.
Il répond à côté. Il répond...
Oui.
On lui demande ce qu'il pense de la désindustrialisation. Il dit, moi, j'ai tout fait bien. C'est pas la question.
Bon. Alors, on revient sur la démission. Là. On se donne comment ?
Est-ce qu'il y a eu une étude aux États-Unis, par exemple, le phénomène de démission ?
Oui.
Est-ce qu'il y a plus féminin que masculin ou est-ce qu'il y a une différence entre les...
Autant que je sache, il est assez global. Il touche toutes les couches de l'emploi à des degrés divers. Par exemple, ça touche plutôt les jeunes, moins de 25 ans, moins de 35 ans. C'est surtout en dessous de 35 ans, parce que, évidemment, aux États-Unis, c'est quand même un peu comme ailleurs. Après 35 ans, on y regarde un peu plus avant de quitter son emploi. Et puis, on a plus de charges de famille. Les enfants vont entrer dans des études plus ou moins longues. Donc, ça complique beaucoup la vie.
Il y a une chose aussi importante. C'est les jeunes aujourd'hui qui ont fait vraiment des très grandes études, hein, même voire polytechnique. Qui finalement, parce qu'on parlait un peu d'écologie tout à l'heure, hein, on parlait aussi d'écologie, qui veulent choisir en fait, ça c'est intéressant aussi, des entreprises hein, qui correspondent à des valeurs qu'ont envie de défendre.
Absolument.
Et ça je pense que c'est quelque chose de récent, hein, et ça c'est plutôt positif je trouve, hein, plutôt que d'aller directement là où ils vont gagner plus d'argent ou je ne sais quoi, et qui cherchent à trouver des entreprises quand même qui respectent un certain nombre de valeurs, parce qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui sont quand même branchés, enfin c'est ce que je dis moi aussi dans les jeunes mots, hein, qui sont branchés écologie et donc qui feraient plus attention dans le choix d'une entreprise. Et ça, je trouve ça assez intéressant.
Tout à fait. Ma fille qui vit aux États-Unis depuis maintenant 30 ans. M'a envoyé sa réaction et elle a eu en conclusion une remarque qui m'a d'autant plus frappé que elle, à l'époque, pour accéder à des responsabilités, a choisi de quitter la France et d'aller en Californie. Et en Californie, elle a subi le phénomène de la trempe américaine, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, petite française là, et sa boîte l'a foutue aux réclamations à répondre aux clients mécontents. Donc là, ça passe ou ça casse. Elle a réussi à s'en débrouiller et, de fait, elle est montée très vite dans la pyramide sociale, ce qui était son projet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle me dit ? Ce ne serait pas un malheur si le capitalisme se calmait un peu. Parce qu'à mon avis, passer le problème des enfants à l'école, etc., on a aujourd'hui un gros problème, c'est que, avec le développement effréné des rentes et des inégalités, on crée beaucoup de désintérêt et de retrait. Je veux dire, quand les gens vous leur expliquez que pour faire des travaux durs, vous ne pouvez pas leur donner plus de, je sais pas, 2% ou 3%, et que très haut dans la hiérarchie, on s'octroie 20%, c'est une misère. Tant qu'on sera dans un milieu de ce type, c'est un vivier irrespirable. Ouais, je suis pas gauchiste,
pas encore.
Mais
Et ma fille, elle est encore moins que moi, puisqu'elle est partie pour... mais trop, c'est trop.
Oui, mais l'élément nouveau, c'est que ces choses-là sont publiques. C'est-à-dire le niveau de richesse et de machin, c'est beaucoup plus public que ce n'était dans nos générations.
Oui, mais le fait de...
Donc, et le ça fait choque de, beaucoup plus.
Oui, mais le fait de tout savoir, c'est ambivalent. Parce que d'un côté, ça choque, oui. Mais de l'autre côté, ça habitue. Oui. Et tant qu'il n'y a pas de réaction nulle part, moi, je vois dans les analyses que je vous ai présentées, je vois beaucoup d'éléments positifs et beaucoup de raisons de penser que des changements positifs doivent intervenir. Moi, je ne sors pas de ce travail avec un état d'esprit, mais il faut que cette réaction intervienne. Et on parle beaucoup, par exemple, des jeunes en Iran qui se révoltent contre l'inacceptable, mais il y a de l'inacceptable chez nous. Hein.
Pas à ce point.
Oui, pas à ce point.
Pas dans le même domaine. Mais est-ce que c'est clair, si on ne modifie pas notre approche du partage de la richesse, créée, c'est tout.
C'est le sujet de l'Europe, c'est le sujet de notre économie libérale. C'est pour ça que je pose la question, quelles orientations pour les institutions financières, par exemple, parce que il y a une responsabilité de régulation quand même.
Oui, ça c'est sûr.
Quand vous regardez l'importance des fonds de pension en Europe, les fonds de pension américains, c'est énorme. Ils ont la moitié, c'est à eux. Ils ont tout. La moitié de l'industrie, l'industrie je veux dire, qui tient la route européenne, elle a des fonds de pension américains presque. Avec un peu de chinois, un peu de.
Entre parenthèses, ce sont bien ces gens-là qui ont été moteurs dans la désindustrialisation de la France.
Bien sûr. Et en particulier, alors là, on n'en a pas encore parlé, les fonds de pension. Alors, je rappelle les fonds de pension. Le fonds de pension, le fameux BlackRock qu'on voue au Gémini, son principal actionnaire, c'est quand même celui qui gère les pensions des enseignants de Californie. Et il faut que ça crache un max, parce qu'ils n'ont que ça pour avoir des retraites. Donc, moi, je dis toujours, sous forme de boutade, enfin, les Américains, c'est les premiers qui ont réussi le fantasme de Marx, ils sont devenus propriétaires des sociétés industrielles.
Oui.
À travers les fonds de pension. C'est le paradoxe du système. Hein ? Ben si. Et ils font la loi. Alors, c'est pas l'instituteur lambda de Californie qui fait virer les gens dans les boîtes françaises, c'est les gestionnaires qui sont les requins qui gèrent tout ça, à qui ils ont confié leurs sous et qui comptent sur eux pour leur verser des bonnes pensions, qui au bout du bout, finalement, tuent la petite industrie française. On voit tous les sous-traitants de deuxième niveau de l'automobile qui se cassent la gueule les uns après les autres. Parce que le fonds de pension américain a dit non, moi je continue pas et j'arrête. Et alors, M. Le Maire peut bien s'agiter comme un dératé en disant mais l'État, nous on va boucher les trous, on va trouver un autre actionnaire solide et stable. Mais bon, il pédale dans la semoule parce qu'il n'y a pas. Hein, voilà.
Comment avec ça donner de l'énergie et de l'envie de bosser à nos 30-35 ans, quoi.
Oui.
Celui qui s'intéresse un peu à ce qui se passe autour de lui, il dit bah, je préfère aller garder les boutons, quoi, faire du.
Créer
en boîte. Monter sa boîte, oui, mais j'en connais, oui, ça y est. Ça ne va pas durer peut-être. Alors avant, ils ne voulaient pas bosser pour le patron, maintenant ils bossent deux fois plus. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Sur leur compte et tout. Voilà. Donc c'est bien pour ça qu'on dit.
C'est pas une démission. Ça marche bien tant qu'ils sont valides. Ils ont toujours été
plus, ils ne cotisent pas.
Ils ne cotisent pas parce que c'est les millions.
Ils cotisent mal parce qu'on ne veut pas payer pour l'autre. On est indépendant, on ne veut pas payer pour l'autre. C'est les millions et tout.
Les gens qui se mettent à leur compte, c'est un des contre-poisons de ce phénomène-là. C'est-à-dire, je vais me débrouiller, c'est pas à toi que je vais dire ça. Hein, parce que dans la race des auto-entrepreneurs, c'est le martien qui est là au bout de la table, et il en fait partie.
C'est un des facteurs positifs que j'évoquais, parce qu'en France, c'est assez nouveau que ça se développe autant, et c'est encourageant.
Oui, mais ça, numériquement, ça ne suffira pas pour résoudre globalement le problème.
Ah, ben bien
voilà.
Sûr.
Voilà.
Ça ne donne pas une force industrielle.
Voilà.
Une capacité, je veux dire, à faire, à exporter, à vendre.
C'est bien pour les artisans.
Ça va bien quand on raisonne. Qui permet de diminuer les impôts souvent et d'échapper à beaucoup de choses.
Moi, je voudrais dire qu'on est dans une situation où. En France en particulier, mais pas que, où on change de paradigme.
Oui.
Hein, on a eu le Covid qui a succédé à 30 ans ou 40 ans d'après 68. Tout était possible en 68. Et puis la cloche s'est refermée, on est rentré dans des procédures de plus en plus sophistiquées à la française, avec des phénomènes du genre de celui que vous indiquiez tout à l'heure, des fonds de pension, etc. Le problème de l'environnement remet une deuxième couche, ce qui fait que les gens, quelque part, sont sidérés et interdits, en se disant où est-ce que je vais, etc. On a cité les situations d'enfants qui sont partis, qui ont émigré. Moi, j'en ai un comme ça aussi, qui est parti au Canada. Et qui fait des choses qu'il ne pouvait pas faire en France. Et sa femme aussi, elle a doublé son salaire en étant infirmière. Tout ça fait qu'en France, on est sur un glacis qui est trompeur, parce qu'on a des aides publiques, on a un système soviétique de droite. Je caricature.
Oui, mais c'est ce que disait, comment il s'appelait.
Donc tant que ça marche, tant qu'il y a suffisamment, quand on peut faire les deux à la Macron, tout va bien. Mais le jour où on va se réveiller parce que on sera un peu ukrainien, on sera un peu etc. On n'a plus les moyens d'entretenir notre place de grand empire colonial que l'on avait au 19e siècle. Donc aujourd'hui, et on n'a pas pris la mesure de tout ça. Et on n'a pas su revenir à des choses différentes. Alors, on bricole, on fait de l'auto-entrepreneuriat. On oublie au passage que quand on est tout un groupe, on échange des expériences, alors que tout seul, on ne sait pas forcément tout faire. C'est vrai dans l'industrie nucléaire en particulier. Moi, je pense qu'on est dans un grand chambardement, là, en ce moment, et que ce n'est pas fini. Alors, il y a des solutions positives, telles que vous l'envisagiez, où il y a des entreprises qui labourent, qui continuent à labourer, comme les paysans continuent à labourer. Et puis, les pouvoirs publics font ce qu'ils font,
ce qu'ils peuvent.
Toujours pertinent. Voilà. Donc, moi, je suis là un peu dans l'expectative, non pas que ça me... que je sois catastrophiste, mais il y a des choses qui... Il y a des, il y a des tendances lourdes qui sont inscrites, la désindustrialisation. Moi, j'étais rapporteur dans le temps au Syrie, hein, je sais ce que ça veut dire. Il y a des phénomènes d'immigration, on va en remettre une couche, hein, histoire de refaire ce qu'on a fait après la guerre d'Algérie ou après, dans ces moments-là, où on relançait l'industrie en France. On ne s'occupe pas pour autant de ce que deviendra l'entité France pour les immigrés. Ils ont leur place en France, c'est évident. Mais à quel prix, comment, quel statut? Moi, je ne connais pas je fréquente un certain nombre de clubs, de choses comme ça. Je ne connais pas un club de service, notamment, qui a un processus pour dire on va s'occuper des immigrés d'une façon ou d'une autre. Bon, je ne parle pas de l'administration française qui vient de se qualifier en demi-finale pour avec l'histoire du paquebot, enfin du cargo à Marseille ou je ne sais où à Toulon. Donc, moi je trouve que ça m'interpelle formidablement, hein, je vous en remercie, et que on n'a pas fini de chercher.
Ça c'est sûr.
Non mais je rappelle que ce groupe-là, il est fait pour qu'on propose des sujets qui sont vraiment au cœur de l'actualité et qu'on en débatte entre nous. On veut pas. Il y avait tout à fait au début, on a commencé, il y avait une dame qui voulait qu'on trouve les solutions. Donc j'ai dit calmons-nous. Je crois qu'il faut déjà essayer de comprendre. Hein.
Je rebondis sur. C'est la raison pour laquelle j'ai fait synthétique très court. Pourquoi? Parce que j'ai pensé que le sujet était tellement important pour l'avenir que le fait d'en débattre ensemble avait plus d'importance que le fait d'entrer dans les détails dont on peut se passer. Franchement, on a de la famille, et des enfants, des frères et sœurs en Belgique, en Allemagne, à droite, à gauche, en Italie. Bon, c'est pas si différent. Oui, il y a des petites différences. Par exemple, je vois dans le système éducatif belge, il y a un certain nombre de trucs intéressants. Qu'est-ce qui est dommage? C'est que peut-être on aille, les gens qui sont responsables de ça n'aillent pas un peu plus voir ailleurs ce qui se fait, recueillir des bonnes idées, puis les importer. Ce qui est toujours difficile, hein. Moi, j'ai fait ce travail-là après un voyage au Japon. Eh bien, rapporter les enseignements d'un voyage au Japon pour une usine française, c'était un travail redoutable, ardu.
Les cultures sont tellement différentes.
C'est tellement différent. Alors, ce qui aidait, c'est qu'on fabriquait la même chose avec les mêmes machines. Mais pour autant, comme vous dites, que de différence.
La philosophie est tout autre. Il y a eu des études qui ont été faites par des sociologues sur ça, sur les différences entre les pays par rapport à la façon dont les entreprises sont gérées. Et ça date déjà de moins...
Des décennies.
Entre la Belgique...
Entre le Japon et d'autres, même par rapport à l'Allemagne, hein, il y a des différences très grandes. Hein. Tous des histoires différentes.
Entre la Belgique et la France... C'est pas si différent, il y a des différences, vous avez raison, surtout avec le nord de la Belgique, mais ils ont un truc hyper simple. Ils ont un meilleur système de communication entre les familles et l'école. Ben, je peux vous dire que rien que ça, ça fait une sacrée différence.
Il y a quand même une grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est l'enseignement technique. Enseignement technique.
Et le rôle des syndicats
est beaucoup
aussi,
plus développé
en Allemagne que la même. Hein.
J'ai été l'année dernière au lycée du bâtiment de Chalon, là,
Camille Dugas.
Dugas, c'est ça. Eh bien, il y a de moins en moins d'élèves.
Ah bah
Il y a certaines sections,
oui, oui, exactement.
Certaines sections qui sont à la limite d'être arrêtées parce qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes qui intègrent ce.
Oui, mais ça, c'est...
Il n'y a pas de jeunes.
Il y a... La France, on a mis en avant tout ce qui était philosophie, littérature, etc. Si on regarde l'histoire de la France, c'est aussi c'est des lumières hein, aussi. Et tout ce qui était technique, on l'a quand même toujours
intériorisé. Lisez ma contribution, parce que dans ce que je vous ai envoyé, j'ai fait une contribution perso sur la désindustrialisation et j'évoque ce problème-là. Voilà,
bien sûr, bien sûr.
Bon.
Pour ça, il faut toujours retourner dans l'histoire, parce que
Ce que je vous propose, c'est que c'était très intéressant. Parce qu'on va rebondir un petit peu sur ce truc-là jeudi. Hein.
Alors à ce propos, c'est pour ça que je n'avais pas coupé mon téléphone, ce dont je m'excuse. Je viens de perdre mon frère aîné. Et jeudi, je ne serai pas avec vous parce que je dois monter à Paris.
Ben, nos condoléances.
Oui, condoléances.
Bien. Bon, merci de participer. Et puis donc j'ai accroché deux intervenants et programmé. Donc ayez le réflexe si vous n'avez pas fait attention dans les mails. Et moi je peux me tromper aussi.
J'ai des problèmes
avec mon téléphone. Disons d'aller sur le site pour voir ce qui est téléchargeable. Hein?
On l'a.
Oui, on l'a reçu.
Passé du droit.
On a tout reçu.
Ah si, j'ai oublié quelque chose. On avait dans le pour jeudi, il y a un chapitre sur Péchinet. Alors j'avais demandé à le mari de Françoise était un cadre supérieur de Péchinet, Serge Rassovlev. Et il a bien vécu cette histoire. Il se trouve que moi, j'ai un copain qui a été à un moment aussi à l'UTB, qui est un Gazar, qui était directeur de l'école à Cluny. Il a 5 ans de moins que moi. Et il était aussi cadre chez... Donc je l'avais invité pour qu'il vienne jeudi. Il ne peut pas, parce qu'il a une contrainte, et Serge n'est pas là. Donc dans la liste des rendez-vous, là, on peut caser un cas d'école, la destinée de Péchinet. Parce que tout, c'est industriel, hein, l'aspect de la démission, c'est pas... Un peu d'une certaine façon, parce qu'à la fin, quand tout est parti aux États-Unis, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont quitté le navire. Mais voilà, on était numéro un mondial et on n'existe plus aujourd'hui. Et c'est un processus qui a duré 25 ans, hein, du point de vue calendaire, et c'est intéressant d'avoir le témoignage de gens qui ont vécu ça de l'intérieur. Hein, parce qu'il y a un beau chapitre d'un haut fonctionnaire qui en parle d'une façon docte et machin. C'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand on écoute les gens de la boîte.
Preuve que les formations techniques en France étaient d'excellent niveau. Oui. On était numéro un dans beaucoup de domaines.
Hein. Oui, oui.